From the conference center
depuis le centre de conférence à Salt Lake City en Utah, voici la session du samedi après-midi de la 195e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par un chœur conjoint des instituts d'Ogden et de South Jordan en Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Elle peut être utilisée à des fins personnelles et non commerciales au foyer, en famille ou dans le cadre de l'Église. David Bednar, du Collège des 12 apôtres, dirigera cette session.
Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi après-midi de la 195e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Dallin Oaks, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous notons le décès de notre prophète et ami bien-aimé, Russell Nelson. Il nous manquera grandement. Nous saluons tous les membres et les amis qui se trouvent dans cette assemblée ou qui suivent cette réunion à la télévision, à la radio ou sur Internet. La musique de cette session sera interprétée par un chœur combiné des instituts d'Ogden et de South Jordan en Utah, sous la direction de Alan Saunders et de Alan Sackett, avec Joseph Peoples et Linda Margetts à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Peuple du monde, écoutez donc ». Ensuite, Christophe Girocarrier, des 70, fera la prière d'ouverture.
Shout to the refrain, truth is restored again.
Our Father in heaven,
notre Père céleste, nous te remercions pour ton Fils. Nous te remercions pour l'Église rétablie et son Évangile sur la terre aujourd'hui. Nous te remercions pour les prophètes, voyants et révélateurs qui nous guident. Nous te demandons de les bénir et de prendre soin d'eux tandis qu'ils continuent à nous diriger dans la justice. Nous te prions de bénir ceux qui vont parler cet après-midi et nous te prions de nous bénir avec l'Esprit afin que nos cœurs soient ouverts lorsque nous écouterons les paroles et que nous puissions avoir le désir de changer. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Ronald Rasband du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Chad Webb, premier conseiller dans la présidence générale de l'École du Dimanche. Après le discours de Frère Webb, le chœur chantera « Seigneur, toi qui donnas ta vie ». Nous entendrons ensuite Jeremy Yagi et Kevin Brown des 70. Cette conférence générale d'octobre 2025 marque le 30e anniversaire de la publication de la famille Déclaration au monde. Par dessein divin, cette déclaration, reçue par révélation, a été créée pour sauvegarder et fortifier la famille dans son rôle de cellule de base de la société. Nous faisons tous partie d'une famille. Que nous soyons mère, père, fille, fils, petit-enfant, grands-parents, tantes, oncles, frères, sœurs ou cousins. Plus important encore, selon la déclaration, chacun de nous est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes et qui possède une nature et une destinée divine. Quand j'ai été appelé au Saint-Apostolat en 2015, on m'a dit ceci. Désormais, cette déclaration t'appartient. Puis, en désignant les mots « Conseil des douze apôtres » dans le titre, la personne a ajouté « Ton nom est là, imprègne-en toi et enseigne-la comme si c'était la tienne. » Que j'aime la déclaration sur la famille. De l'Afrique à l'Australie, j'en ai témoigné à travers le monde du rôle de la famille dans le plan éternel de Dieu. La déclaration est d'origine divine. Nous devons donc la traiter avec le respect que méritent les paroles de Dieu. Frères et sœurs, comme je l'ai dit à cette chair lors d'une conférence générale passée, souvenez-vous que les mots sont importants. La déclaration est au cœur de nos croyances. Je vais vous raconter dans quelles circonstances elle a été écrite. En 1994, un an avant la présentation de la déclaration, le Collège des Douze Apôtres a discuté de l'éloignement croissant de la société et des gouvernements vis-à-vis des lois de Dieu concernant la famille, le mariage et l'identité sexuelle. Le président Nelson a expliqué plus tard « Ce n'était pas là tout ce que nous avons vu se profiler. Nous avons vu les efforts entrepris par diverses communautés pour éliminer toutes les normes et limites relatives à l'activité sexuelle. Nous avons vu la confusion des sexes, nous avons vu tout cela arriver. Les douze apôtres ont décidé de rédiger un document, une déclaration officielle qui résumait la position de l'Église sur la famille. Cette année-là, ces apôtres, des voyants appelés de Dieu, ont préparé une déclaration sur la famille. Dallin Oaks a rapporté qu'à l'aide de la prière, ils se sont tournés vers le Seigneur pour savoir ce qui devait être dit et la manière de le dire. Ils ont présenté la déclaration à la première présidence, constituée de Howard Hunter, Gordon B. Hinckley et Thomas Monson, pour qu'elle l'examine. Quelques mois plus tard, en mars 1995, le président Hunter est décédé et le président Hinckley est devenu le 15e président de l'Église. La déclaration était alors entre ses mains.
Quel serait le bon moment pour donner cette déclaration à l'Église? Ce moment est arrivé 6 mois plus tard. Quelques jours avant la réunion générale des femmes du 23 septembre, qui précédait la conférence générale, le président Hinckley et ses conseillers ont tenu conseil avec la présidence générale de la Société de secours. Les sœurs, comme les apôtres, avaient réfléchi aux préoccupations qui touchaient les femmes et la famille. Ils avaient décidé d'axer la réunion sur la famille. Il était prévu que le président Hinckley s'adresse aux femmes lors de la réunion. Il avait médité sur le sujet de son discours. Au cours de la discussion, il a mentionné, par son titre, la Déclaration au monde sur la famille, nouvellement rédigée et qui n'avait pas encore été rendue publique. Cette réunion des femmes était-elle le cadre adéquat pour faire une déclaration décisive sur la famille? Hélène Jack, alors présidente générale de la Société de secours, a expliqué plus tard. À ce moment-là, nous ne savions pas ce qu'était la déclaration sur la famille. Nous pouvions le deviner par son titre et nous sentions que tout message sur la famille serait bénéfique. J'étais convaincu que les membres du Collège des 12 recevaient des révélations. Ce matin-là, la réunion de la Société de secours a été historique. Le président Hinckley a présenté la déclaration sur la famille avec ses paroles importantes. Avec tous les raisonnements spécieux qui sont présentés comme des vérités, avec toutes les tromperies à propos des principes, avec toutes les incitations à nous laisser gagner peu à peu par la souillure du monde, nous nous sentons poussés à lancer un avertissement et à réaffirmer les principes, la doctrine et les pratiques relatifs à la famille que les prophètes, voyants et révélateurs de notre Église ont énoncés à maintes reprises tout au long de son histoire. Il a ensuite lu la déclaration dans son intégralité. Comme le Seigneur l'a déclaré, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c'est la même chose. La déclaration énonce « La famille est ordonnée de Dieu ». Que j'aime la clarté de cette phrase. Cette déclaration est un appel à travers la condition mortelle, en gardant toujours à l'esprit la divinité qui est en nous et l'avenir éternel qui nous attend. Le président Nelson a enseigné « Vous êtes littéralement des enfants de Dieu ». Ne vous y trompez pas, votre potentiel est divin. Si vous cherchez diligemment, Dieu vous donnera un aperçu de ce que vous pouvez devenir. Lorsqu'elle a été présentée, la déclaration n'était pas en accord avec l'opinion de beaucoup dans le monde. C'est toujours le cas aujourd'hui. Certains s'opposent à ce qu'elle affirme sur la famille, le mariage et le genre. D'autres suggèrent que l'Église devrait retirer, réviser ou même mettre de côté la déclaration. Frères et sœurs, comme l'a dit le président Hinckley, cette déclaration sur la famille est une doctrine. Les principes ne sont pas en contradiction avec les voies du Seigneur et son chemin des alliances, mais en parfaite harmonie avec eux. Les enseignements que contient la déclaration ont été révélés par notre Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres, à l'époque et aujourd'hui. C'est son Église. C'est lui qui a établi les vérités selon lesquelles nous vivons. En réfléchissant à la déclaration, certains d'entre vous se disent peut-être « Elle ne convient pas à ma situation. Elle manque d'empathie. Ma famille ne ressemble pas à cela. » Je ne m'y reconnais pas. Aux personnes inquiètes à ce sujet, je dis, sachez que vous êtes un enfant de parents célestes et que vous faites partie de la famille de votre Père céleste. Personne ne vous connaît mieux que lui ni ne se soucie plus profondément de vous. Tournez-vous vers lui, déversez-lui votre cœur et ayez confiance en lui et en ses promesses. Vous avez une famille en la présence de votre Sauveur, Jésus-Christ, qui vous aime. Il est venu sur terre pour expier nos péchés et porter le fardeau de nos fautes et de nos jours les plus sombres. Il comprend ce que vous traversez et ressentez. Tournez-vous vers lui. Ayez confiance qu'il enverra le Saint-Esprit pour vous accompagner, vous élever et vous guider. Ressentez leur amour qui se répand dans le cœur des enfants des hommes. C'est la plus désirable de toutes les choses et la plus joyeuse pour l'âme. Mes frères du Collège des Douze Apôtres et l'aide de la Première Présidence vous aiment profondément. Nous prions pour vous et recherchons les directives du Seigneur à votre égard. Restez avec nous. Vous vivez à une époque difficile où l'adversaire cherche à vous assujettir. Ne vous laissez pas entraîner. Et si vous l'avez été, revenez. Nos bras, ainsi que ceux d'autres personnes qui vous aiment, vous sont ouverts. La déclaration stipule que les parents ont le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture. Le livre de Mormon offre un deuxième témoignage de cette vérité. Au premier verset de son premier chapitre, nous lisons « Moi, Néphi, étant né de bons parents ». Combien d'entre nous ont commencé et recommencé, encore et encore, le livre de Mormon, au point que ces mots soient devenus gravés dans notre esprit ? Gravez-les dans votre cœur. L'une de mes phrases préférées de la déclaration est celle-ci. On a le plus de chances d'atteindre le bonheur en famille lorsque celle-ci est fondée sur les enseignements de Jésus-Christ. Qui ne veut pas être heureux? Et quels sont les enseignements de Jésus-Christ? La déclaration nous les rappelle aussi. La foi, la prière, le repentir, le pardon, le respect, l'amour, la compassion, le travail et les divertissements saints. Qui ne verrait pas sa vie s'améliorer en mettant en pratique ces principes essentiels? Aucun d'entre nous ne le vivra parfaitement. Cependant, suivons ces sages paroles du président Hinckley. Faites de votre mieux. Dans la déclaration, nous lisons « Le Père doit présider dans l'amour et la droiture et la Mère a pour première responsabilité d'élever ses enfants. » Présider ne veut pas dire dominer et élever ne désigne pas un rôle secondaire. Dieu a donné aux hommes et aux femmes des rôles différents, mais égaux et essentiels et qui se complètent. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Ma femme et moi avons appris à mieux travailler ensemble, en partenaires égaux, après qu'un jour, j'ai décidé de prendre une décision importante sans la consulter. Cela l'a surprise, l'a prise au dépourvu et l'a placée dans une situation très difficile. Quelque temps après, elle a posé la main sur mon épaule et m'a dit avec fermeté « Ron, s'il te plaît, ne fais plus jamais ça. » Depuis ce jour, nous avons pratiquement toujours été en accord. Dans la déclaration sur la famille, on lit que le père et la mère ont l'obligation de céder en qualité de partenaires égaux. Égaux est un mot important. Au fil des années, Sœur Asband et moi avons travaillé ensemble sur ce que la déclaration décrit comme nos responsabilités sacrées. Nous avons façonné notre mariage sous un joug d'égalité. Maintenant que nos enfants sont tous mariés, Sœur Asband et moi-même continuons de leur donner des conseils, ainsi qu'à leurs conjoints, sur la manière d'être des partenaires égaux. Lorsque nous vivons les yeux fixés uniquement sur la gloire de Dieu, nous nous respectons les uns les autres et nous nous soutenons mutuellement. Ces modèles divins de justice conduisent à la stabilité dans notre vie, dans notre famille et dans la société. Notre Père Céleste a donné la déclaration sur la famille afin de nous aider à revenir à lui, à apprendre et à être remplis d'amour, de force, de détermination et de compréhension éternelle. De toute mon âme, je vous supplie de rester proche de lui et de son Fils bien-aimé. Je promets que si vous le faites, l'Esprit vous inspirera, vous guidera et vous aidera à ressentir dans votre cœur la paix promise qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
On raconte un jeune étudiant qui avait du mal à comprendre un cours à l'université a embauché un tuteur. Vers la fin de l'année, le professeur a annoncé que pour l'examen, les étudiants pouvaient amener une feuille de papier sur laquelle ils pouvaient mettre ce qu'ils voulaient. Certains ont noté en écriture minuscule lisible uniquement à la loupe ce qu'ils avaient entendu pendant les cours et lu dans les manuels. Notre jeune étudiant est arrivé à l'examen avec une feuille blanche et un homme. Quand le professeur l'a interrogé, le jeune homme a répondu « Vous avez dit que je pouvais amener une feuille de papier sur laquelle je pouvais mettre ce que je voulais. » Il a alors posé la feuille sur le sol, près de son bureau, et a déclaré « Je voudrais que mon tuteur se tienne sur la feuille. » En tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des sept derniers jours, bénéficiant de la compagnie d'un membre de la divinité, nous avons l'aide du tuteur parfait. Le Saint-Esprit connaît toutes choses, témoigne de la vérité et nous rappellera tout. Le président Nelson parlait souvent de l'importance d'écouter la voix du Seigneur. Il nous a expliqué comment permettre au Saint-Esprit de nous guider et nous a souvent supplié d'accroître notre capacité spirituelle de recevoir la révélation. Je vous invite aujourd'hui à réfléchir au rôle du Saint-Esprit dans l'apprentissage et l'enseignement de l'Évangile au foyer et à l'Église. Le Saint-Esprit est donné par la prière de la foi, quand nous nous efforçons de vivre pour être dignes de ce don précieux. Le manuel de l'Église, enseigné à la manière du Sauveur, est inspiré. Il souligne plusieurs principes supplémentaires établis par le Seigneur pour nous permettre de favoriser l'influence du Saint-Esprit. L'un de ces principes s'intitule « Favoriser un apprentissage diligent ». Auparavant, nous pensions que l'enseignement était l'occasion pour un parent ou un instructeur de ressentir l'esprit en préparant la leçon, pour ensuite faire part de ce qu'il avait appris aux enfants ou aux membres de la classe dont le rôle était d'écouter. Pourtant, l'enseignement est plus efficace pour nous, apprenants, si nous venons préparer et si l'instructeur met en place une expérience d'apprentissage qui favorise la révélation personnelle dans notre cœur et notre esprit. De plus, quand nous avons l'occasion d'exprimer ce que nous apprenons lors de notre étude et par le Saint-Esprit, nous nous instruisons et nous édifions mutuellement. Lorsque nous mettons en pratique ces principes de l'Évangile, l'Esprit témoigne à nouveau de leur véracité. Jésus-Christ est l'exemple parfait en tout et nous a tous invités à être des apprenants diligents et à prendre la responsabilité de notre témoignage. Il a invité ses disciples à se préparer à apprendre, à parler de ce qu'ils apprennent et à agir avec foi. Il a prié pour eux, a vu leur potentiel divin, les a écoutés et leur a montré qu'ils étaient aimés et importants. Cherchons à remarquer les progrès des apprenants, à répondre à leurs besoins et à les aider à développer les habitudes spirituelles d'une vie durable de disciples. En tant qu'apprenants, lorsque nous exerçons notre libre arbitre dans le processus d'apprentissage, nous montrons au Saint-Esprit notre disposition à recevoir ses instructions. Je suis reconnaissant pour une enseignante qui m'a encouragé à devenir un meilleur apprenant. Quand j'ai commencé l'université, je voyais à tort l'école comme quelque chose à subir avant de pouvoir faire du sport. Un jour, après avoir lu ma dissertation, mon enseignante m'a dit qu'elle pensait que j'étais très doué pour réfléchir de manière analytique. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Elle a déclaré que si je m'appliquais davantage, je serais un meilleur élève. Cela ne m'était jamais venu à l'esprit, mais son intérêt pour moi, ses encouragements et son invitation ont changé le cours de mes études et ont été une grande bénédiction dans ma vie. Un autre principe permettant de favoriser la présence du Saint-Esprit est d'enseigner la véritable doctrine. Cela signifie que notre étude et nos enseignements de l'Évangile sont enracinés dans la parole de Dieu et que nous évitons les exagérations et les spéculations sur ce que le Seigneur n'a pas révélé. Nous nous concentrons plutôt sur les principes essentiels et éternels qui donnent l'occasion à l'Esprit de témoigner de la vérité. À nouveau, nous suivons l'exemple du Sauveur. Il a déclaré « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé ». La véritable doctrine se trouve dans les Écritures et les enseignements des prophètes modernes. L'exhortation du Seigneur d'étudier les Écritures personnellement et en famille et d'aller à l'Église chaque semaine pour étudier son Évangile nous donne un cadre remarquable pour apprendre sa doctrine et entendre sa voix. Nous sondons les Écritures pour en comprendre les récits, les principes qu'ils enseignent et la manière de mettre en pratique ces vérités. Quelle bénédiction d'avoir les Écritures à portée de main. Imaginez Adam et Ève, Abinadi ou même le maître pédagogue Jésus-Christ venir chez nous ou dans notre classe pour nous instruire. Ils peuvent le faire quand nous nous faisons un festin de la parole de Dieu. Par nos efforts diligents, nous apprenons à comprendre et à aimer les Écritures et nous voyons qu'elles contiennent les réponses aux questions de l'âme. Quelque temps avant notre mariage, Christy, ma femme, avait du mal à ressentir l'amour de son Père Céleste et à comprendre son plan pour elle. Elle a prié pour être guidée, elle s'est sentie poussée à participer à l'Institut. Elle s'est alors inscrite à une classe sur le Nouveau Testament. La manière dont son instructeur enseignait à l'aide des Écritures et même sa façon de les tenir montrait son amour profond pour la parole de Dieu. À mesure qu'elle suivait le cours, le Saint-Esprit lui a murmuré qu'il y avait quelque chose dont elle avait besoin dans les Écritures. L'amour de son instructeur pour les Écritures et les murmures du Saint-Esprit ont suscité en elle le désir d'étudier sérieusement la parole de Dieu. Cette étude s'est transformée en un long parcours de conversion profonde et de service dévoué. Enfin, comme le suggère le manuel « Enseigner à la manière du Sauveur », nous devons toujours orienter nos enseignements et notre apprentissage sur Jésus-Christ. Nous devons parler plus souvent de lui avec plus de révérence et chercher les occasions de témoigner et d'exprimer notre reconnaissance et notre amour pour lui. Quel que soit le cadre, lorsque nous nous souvenons de lui, nous avons son esprit avec nous. Nous pouvons mettre Jésus-Christ au centre de notre enseignement en soulignant qu'il est l'exemple parfait, la personnification et l'expression de tous les principes de l'Évangile. Même lorsqu'il n'est pas directement mentionné dans un récit scripturaire, nous pouvons toujours le citer comme exemple du principe enseigné. Il suffit de demander « Vous souvenez-vous d'un moment où Jésus-Christ a illustré ce principe ?» Nous pouvons également nous centrer notre attention sur lui en étudiant ses titres, ses rôles et ses vertus, et en cherchant non seulement à apprendre ce qu'il a fait, mais aussi à mieux comprendre qui il est. Par exemple, lorsque nous étudions le principe du repentir, il est important de comprendre comment le faire. Mais il est aussi essentiel de nous souvenir de ce que Jésus-Christ a fait pour rendre le repentir possible, et de comprendre ce que le repentir nous apprend sur lui, sa nature et ses vertus. Qu'est-ce que la possibilité de nous repentir indique sur son amour, sa patience, sa miséricorde, sa vision de notre potentiel divin, sa disposition à expier nos péchés et la joie qu'il éprouve en nous pardonnant? La compréhension de ces titres tels que l'agneau de Dieu, le rédempteur, le médecin, nous montre que le repentir est son invitation à nous purifier, à nous changer et à nous guérir. En nous concentrant sur ce qu'il a fait pour nous et sur ce que cela nous enseigne sur sa personnalité, nous développons la foi qui produit le repentir. Il n'est pas toujours évident de voir les attributs du Sauveur dans les récits scripturaires. Par exemple, quand nous lisons le passage où Néphi construit un bateau, nous pourrions avoir tendance à nous concentrer uniquement sur Néphi. Pourtant, en dirigeant notre attention sur le Sauveur, nous voyons que ce récit n'a pas été préservé pour nous parler de la grandeur de Néphi, mais de celle de Dieu, car il nous donne la force de respecter ses commandements et nous délivre dans les moments difficiles. Nous devons également nous concentrer sur le rôle essentiel de Jésus-Christ dans le plan parfait du bonheur conçu par notre Père Céleste. Notre vie change lorsque nous voyons notre situation à la lumière du plan éternel de Dieu, au lieu de la voir à travers le prisme de notre perspective temporelle. L'Évangile n'est pas une liste d'exigences, c'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ a vaincu le péché et la mort. En recevant sa grâce infinie par le respect de nos alliances avec Dieu, nous pouvons mener une vie joyeuse dès maintenant et nous préparer à vivre avec notre Père Céleste pour l'éternité. En apprenant à voir notre Père Céleste et le Sauveur dans les Écritures, nous apprenons à mieux les connaître et remarquons leur amour et leur influence plus souvent et plus clairement. Je me souviendrai toujours de l'esprit que j'ai ressenti dans ma jeunesse pendant que notre instructeur nous parlait des derniers jours de la vie du Sauveur. Il nous a montré l'importance des événements qui se sont déroulés dans la salle haute à Gethsémani, au Golgotha et dans le tombeau vide, il a exprimé sa reconnaissance profonde pour le Sauveur et son désir ardent de le suivre. Son enseignement invitait l'Esprit à témoigner de Jésus-Christ. Ce que j'ai ressenti dans cette classe a approfondi ma foi et a fait grandir mon amour et ma reconnaissance pour le Sauveur. L'influence de cet instructeur m'a accompagné toute ma vie. Comme il a été dit d'un autre instructeur, nous aurions pu nous réchauffer les mains à la flamme de sa foi. Dans notre foyer, lors de nos réunions de l'Église, à mesure que nous nous concentrons sur Jésus-Christ, enseignons sa doctrine et apprenons diligemment, nous invitons le Saint-Esprit à approfondir notre foi en Jésus-Christ afin de devenir plus semblable à lui. C'est là le but de tout apprentissage et enseignement de l'Évangile. Je suis reconnaissant pour mes instructeurs, mes beaux-parents, mes dirigeants et instructeurs locaux et les hommes et les femmes qui ont été appelés à enseigner et à témoigner à ce pupitre. Tous m'aident à connaître Jésus-Christ et à le suivre. Je suis reconnaissant pour le Saint-Esprit, le tuteur parfait. Grâce au Saint-Esprit, je sais que notre Père Céleste nous aime et a un plan parfait pour nous, que Jésus est le Christ, le Sauveur et le Rédempteur du monde, et que son Évangile et son Église ont été rétablis. Je témoigne avec reconnaissance de ces choses, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Come now. Thank you, choir, for your testimony.
Merci, chœur, pour ce témoignage à travers ce nouveau cantique. Le nouveau cantique de Sainte-Seine, pain de vie, toi, l'eau vive, me touche profondément. Une strophe du cantique dit « Mon cœur brisé, je viens offrir à l'autel, baissant le front ». Ma compréhension de ces mots s'est approfondie peu de temps après que notre famille a quitté Newsbury Park en Californie pour servir dans la mission d'Ogden en Utah en 2015. J'ai reçu une invitation à visiter la base aérienne de Layton en Utah. J'étais jamais allé sur une des bases militaires et je n'avais jamais rencontré d'aumôniers de l'armée ni les hommes et femmes qui travaillent à la sécurité et la protection de leur pays. L'aumônier Harp, comme les milliers d'autres aumôniers bénévoles et professionnels qui servent dans les prisons, hôpitaux et installations militaires à travers le monde, m'a inspiré et édifié. La dernière étape de la visite était le sanctuaire. J'ai demandé à l'aumônier s'il intervenait auprès de toutes les personnes qui désiraient se recueillir, prier, méditer et adorer. Il est allé vers l'avant de la chapelle et a pris une croix de derrière les rideaux. Il m'a dit qu'il utilisait la croix pour les services protestants et catholiques. J'ai demandé ce qu'il utilisait pour nos frères et sœurs juifs. Il est allé à l'autre extrémité du mur avant et a sorti une étoile de David. J'ai alors demandé « Que faites-vous pour les services des saints des derniers jours ?» Il a rangé ses symboles et a montré du doigt l'autel en bois au milieu du sanctuaire. Il a dit que les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours préparent et bénissent le pain et l'eau sur l'autel. J'ai demandé si le large autel qui semblait fixé au sol était resté retiré avant les services de nos frères et sœurs juifs, musulmans, catholiques ou protestants. Il a répondu que l'autel restait en place, car plusieurs de ces confessions l'utilisent aussi à leur façon. Abraham a construit un autel, a lié Isaac et s'apprêtait à sacrifier son fils unique quand sa main a été retenue. Il a alors déclaré comme le Seigneur « Me voici ». Combien de fois le grand « Je suis » ou l'un de ses prophètes ont-ils répondu à l'appel par ces mots « Me voici » ? Dans son sermon sur la montagne, le Sauveur nous a invités à nous recueillir avec nos frères et sœurs avant de nous approcher de l'autel. Paul a enseigné que nous sommes sanctifiés à l'autel par l'expiation de Jésus-Christ. Le prophète Léhi a quitté sa maison et ses choses précieuses. Il a ensuite construit un autel, a fait une offrande et a rendu grâce au Seigneur. La Bible et le Livre de Mormon nous enseignent comment adorer le Fils de Dieu à l'autel. Pourquoi ? Nos premiers parents, Adam et Ève, ont construit des autels et y ont adoré Dieu. Après avoir été chassés du jardin d'Éden et avoir adoré le Seigneur pendant de nombreux jours, un ange leur est apparu et leur a posé une question poignante qui pourrait être posée à chacun de nous. Pourquoi offres-tu des sacrifices au Seigneur ? Adam a répondu « Je ne le sais ». La réponse de l'ange à l'humble aveu d'Adam est superbe. C'est une similitude du sacrifice du Fils unique du Père. C'est pourquoi tu feras tout ce que tu fais au nom du Fils. Tu te repentiras et invoqueras dorénavant Dieu au nom du Fils. La table de Sainte-Seine et les autels du Temple symbolisent le sacrifice de Jésus-Christ et son expiation infinie. Quand nous contractons des alliances et les honorons en recevant l'ordonnance de la Sainte-Seine à l'Église et la dotation et le scellement au Temple, nous nous lions au Sauveur et obtenons un plus grand accès à sa grâce, sa protection, sa sanctification, sa guérison et son repos. Lorsque j'avais 15 ans, je me rappelle avoir demandé à mon père si je pouvais manquer la réunion de Sainte-Seine juste un dimanche en janvier à l'occasion d'un match spécial de football américain. Il a répondu que j'étais suffisamment âgé pour prendre cette décision par moi-même et m'a suggéré de réfléchir à un simple conseil. Il a dit « Si tu décides de manquer la réunion de Sainte-Seine une fois, il sera plus facile de refaire le même choix plus tard. » Si le Sauveur est le grand rassembleur, alors l'adversaire est le séparateur. Satan nous tente afin de nous éloigner de nos lieux d'adoration consacrés et de la protection de Jésus-Christ. Quand nous adorons le Sauveur, nous recevons le pouvoir de résister au courant du monde. Quand nous prenons le temps de communier avec lui, nous avons la promesse d'être délivrés de Satan. Puis, si nous gardons nos alliances, il nous dote de son pouvoir guérisseur et fortifiant. Oh, combien je chéris l'expérience de communier avec le Sauveur par les alliances que je fais aux autels sacrés. Acquérir une compréhension de l'expiation éternelle du Sauveur ligne sur ligne, précepte sur précepte, agit comme une inoculation spirituelle contre les ruses de l'adversaire. les jeunes Elder Yagi à Mexico et Sœur Yagi en Belgique et d'autres missionnaires à travers le monde ont bien plus de chances de voir leurs amis demander les bénédictions du baptême et du don du Saint-Esprit si ces amis assistent à la réunion de Sainte-Seine dans la semaine qui suit leur premier contact avec eux. Un jeune adulte au Tonga ou au Samoa a bien plus de chances d'être scellé dans la maison du Seigneur s'il s'est préparé pour sa dotation et l'a reçu peu après la fin de ses études. Pendant la dotation, les membres sont incités à vivre et à garder 5 lois qui leur confèrent du pouvoir et de la protection. Quand nous faisons des alliances avec le Seigneur, une relation de réciprocité se forme. Nous lui montrons notre loyauté et notre amour. Notre force et notre pouvoir grandissent à chaque promesse faite et tenue. Quand humblement et symboliquement, nous nous agenouillons devant les autels du Seigneur, nous avons l'occasion de réfléchir, arrêter quant à l'orgueil de notre cœur, nous humiliant devant Dieu. Lorsque j'étais jeune, avant que je sorte avec mes amis, ma mère me disait souvent « Rappelle-toi qui tu es et passe me voir quand tu rentres ». Il m'arrivait parfois de ne pas passer la voir quand je rentrais à la maison car il était trop tard. Je regrette d'avoir manqué ces tête-à-tête importants avec ma mère. Aujourd'hui, je me réjouis de mes tête-à-tête avec notre Père Céleste. Quand je m'agenouille pour prier à côté de mon lit ou avec ma famille, je m'imagine agenouillé devant un autel, réfléchissant à ma vie et l'examinant. Je pense à la Sainte Seine, aux morceaux entiers de pain brisés et rompus pour nous, chacun étant un symbole du corps brisé de notre Rédempteur. Je me rappelle les enseignements de Dallin Oaks, qui a enseigné que chaque morceau de pain est unique, tout comme les individus qui en prennent sont uniques. Quand je m'agenouille pour prier, je réfléchis à la manière dont je peux offrir ma volonté à Dieu. David Bednar a enseigné « L'ordonnance de la Sainte-Seine est une invitation sainte et répétée à nous repentir sincèrement et à nous régénérer spirituellement. L'acte de prendre le pain et l'eau n'offre pas en soi le pardon des péchés, mais si nous nous préparons consciencieusement et participons à cette sainte ordonnance, le cœur brisé et l'esprit contrit, alors nous avons la promesse que nous aurons toujours l'Esprit du Seigneur avec nous. Et par le pouvoir sanctificateur du Saint-Esprit et sa compagnie constante, nous pouvons toujours conserver le pardon de nos péchés. Quand Amy et moi examinons en détail les expériences de notre vie, nous célébrons le don d'amour et de sacrifice parfait de Jésus-Christ. Nous voyons aussi comment l'enfer s'est déchaîné. Comment pouvons-nous surmonter le jugement, l'anxiété, la dépression, le cancer, le diabète, le harcèlement en ligne, le vol d'identité, une fausse couche, la perte d'un enfant, d'un frère ou d'un père? C'est parce que Jésus-Christ a pris la coupe amère d'étourdissement, la coupe de colère, pour moi, pour ma famille et pour nous tous. La coupe amère qu'il a bue dans le jardin de Gethsémané et sa souffrance intensifiée sur la croix du calvaire nous permettent de déposer ce qui est difficile, insolent, violent, furieux et qui fait trembler sur les autels du Seigneur et d'être continuellement sanctifié par la réception du Saint-Esprit. Sœur Hollande a dit « Ma prière la plus sincère pour vous et moi aujourd'hui est que nous renoncions complètement à nous-mêmes et que nous nous déposions sur l'autel des promesses et de la paix de Dieu où que nous soyons et quoi que nous ayons fait. Quand nous venons à l'autel, nous n'obtenons pas de récompense, nous en apprenons plus sur celui qui donne. C'est en apprenant ainsi et en nous liant à Dieu par alliance que nous obtiendrons la guérison. Néphi a dit, il m'a rempli de son amour, oui, jusqu'à ce que ma chair en soit consumée. Et notre Sauveur aimant nous a lancé l'invitation, n'allez-vous pas maintenant revenir à moi et vous repentir de vos péchés, être convertis afin que je vous guérisse? Quand elles étaient petites, une des histoires favorites de nos deux aînés, Mackenzie et Emma, était le monde de Narnia. Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Nous aimions tous le grand lion, Aslan. Nous avons gardé un souvenir mémorable du passage où le grand lion donne sa vie pour Edmond. Mémorable parce que les parents, tout comme les enfants, ont versé des larmes lorsque la sorcière blanche tue le lion sur la table de pierre. Mémorable car l'espoir a perduré malgré la tragédie jusqu'à ce que le spectaculaire se produise. Des cris de joie ont résonné dans la petite chambre quand Aslan ressuscite et dit « Si la sorcière connaissait le véritable sens du sacrifice, elle saurait que si une victime consentante qui n'a commis aucune trahison mourait à la place d'un traître, la table de pierre se briserait et la mort elle-même serait vaincue. » Jésus-Christ guérit toutes les blessures. Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons vivre à nouveau. À la conférence générale d'octobre 2022, le président Nelson a raconté une visite de groupe qui s'est déroulée aux portes ouvertes d'un temple. Un jeune garçon était là. Il a expliqué, quand le groupe est entré dans une salle de dotation, le garçon a pointé du doigt l'autel où les personnes s'agenouillent pour contracter des alliances avec Dieu et a dit, « Oh, c'est bien, il y a un endroit où les gens peuvent se reposer pendant leur voyage dans le temple. » Il n'avait certainement aucune idée du lien entre le fait de contracter une alliance avec Dieu dans le temple et la magnifique promesse du Sauveur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, pourtant il a invité ses disciples à la table de Sainte-Cène pour qu'ils se reposent avec lui. La paix règne quand les âmes humbles s'agenouillent à l'autel. Les bras de notre Sauveur sont tendus, sa table est prête. Venez adorer le Fils de Dieu à ses autels sacrés. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
My dear brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs, dernièrement, j'ai réfléchi à trois vérités puissantes du rétablissement. Ces vérités ont été une grande bénédiction dans ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment ces vérités m'ont guidé dans mon parcours vers un témoignage sûr de l'Évangile de Jésus-Christ. Premièrement, Dieu est notre Père céleste aimant. Il est omniscient, omnipotent. Par la lumière du Christ et le ministère du Saint-Esprit, son influence est partout. C'est dans sa nature de nous bénir. Il voit notre passé, notre présent et notre destinée éternelle. Rien ne peut lui être caché. L'invitation du président Nelson à penser de manière céleste nous encourage à imiter la vision et la nature de notre Père céleste. Grâce à ses qualités divines, notre Père céleste nous accorde tout bon don, chacun selon sa perspective et sa vision éternelle. Deuxièmement, le libre arbitre est le don de choisir et d'agir par nous-mêmes. Il représente également la responsabilité de bien choisir. Jésus-Christ a payé le prix suprême pour ce privilège avec son sang précieux. Nous croyons parfois que le libre arbitre signifie faire tout ce que nous voulons. Mais le fait que le prix ait été payé signifie que le libre arbitre est un don sacré. Nous sommes des agents et les agents ont une responsabilité. Dans ce cas, nous sommes responsables des choix que nous faisons en fonction de la connaissance que nous avons et des dons qui nous sont accordés. Nous ne pouvons pas faire de choix sans être responsables des conséquences. Pourquoi avons-nous le libre arbitre ? Pour choisir le bien, pour choisir le Christ, pour choisir continuellement la vie éternelle. Troisièmement, nous acquérons un témoignage par le pouvoir du Saint-Esprit. Un témoignage du Saint-Esprit est plus puissant que la vue. Il est le témoin suprême du Père et du Fils. Le président Nelson a enseigné « Dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. » Frères et sœurs, c'est pour cette raison que nous avons tous besoin du pouvoir du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous pouvons recevoir un témoignage du Saint-Esprit de différentes façons. Comme une ampoule qui s'allume dans une pièce sombre, il peut venir de manière spectaculaire et soudaine. Comme un lever de soleil, il peut se manifester graduellement au fil du temps. Comme des rayons de lumière, il peut apparaître par une exposition intermittente à l'intelligence pure. Peu importe la manière, ce témoignage vient par le Saint-Esprit. J'ai grandi en Jamaïque. C'était amusant et merveilleux. Cependant, lorsque je suis entré au lycée, certains de mes camarades de classe et de mes amis ne comprenaient pas ma décision de devenir membre de l'Église de Jésus-Christ. Ils me demandaient « Comment as-tu pu te joindre à cette Église ? Comment peux-tu croire à cette histoire ?» faisant référence à la première vision. « Comment peux-tu lire ce livre ?» faisant référence au livre de Mormon. « Crois-tu vraiment à toutes ces choses ?» Et pourquoi gâches-tu ta vie ainsi ? C'était douloureux. Surtout lorsque ces questions venaient de personnes qui comptaient pour moi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que j'avais eu une expérience du Saint-Esprit. Alors que ce témoignage emplissait mon cœur, il adoucissait la douleur des jours. Et ton ciel, Seigneur, pour mon bonheur un instant, m'a été montré. Il se peut que l'on vous ait posé certaines de ces questions. Peut-être même qu'en ce moment, vous êtes assailli comme je l'ai été. Le don et le témoignage du Saint-Esprit sont accessibles à tout le monde. La Jamaïque est pour moi ce que Palmyra a été pour Joseph Smith. C'est mon bosquet sacré. Je ne connais pas l'endroit exact où Joseph s'est agenouillé pour prier dans le bosquet sacré, mais je sais exactement où je me trouvais lorsque mon bosquet sacré est devenu réalité. Cela a eu lieu au 4 Grove Road à Mandeville, en Jamaïque, dans ma salle de bain, à 6h du matin, un mercredi. 3 ans après mon baptême. Cette expérience sacrée s'est produite parce que, 2 semaines plus tôt, une sœur missionnaire inspirée m'avait invité à lire le livre de Mormon. Cette sœur, Audrey Krause, assiste aujourd'hui à cette conférence avec sa famille. Je l'aime pour toujours. Cette expérience m'a transformé. Frères et sœurs, un témoignage n'est pas accordé pour une utilisation temporaire. Ce don de notre Père Céleste aimant est destiné à être éternel, parce que celui qui le donne est éternel. Un témoignage ne devrait pas avoir de date d'expiration. Il ne devrait pas s'affaiblir ou diminuer parce que quelque chose a changé dans ma vie ou dans le monde. Il devrait se renforcer, car comme le serviteur dans la parabole des talents, mon témoignage personnel est un don censé s'accroître, non être enterré. Le fait de repenser à ces jours difficiles de mise à l'épreuve et de persécution que j'ai vécu dans mon enfance m'a permis d'arriver au moment où je sais maintenant par moi-même. Je ne fais pas que croire, espérer ou avoir confiance, bien que ces éléments constituent des particules importantes de foi sur le chemin vers un témoignage sûr. Je vous recommande de développer votre propre témoignage en posant des questions, en étudiant, en priant, en jeûnant et en méditant. Je vous en prie, n'arrêtez pas. Chaque effort que vous faites pour poursuivre ce chemin menant au témoignage en vaut la peine. Permettrez-vous à qui ou à quoi que ce soit de vous en priver? Quel témoignage plus grand peux-tu avoir que celui de Dieu? Chaque fils ou fille de Dieu peut acquérir par lui-même ou par elle-même une connaissance plus profonde, plus ferme et plus sûre. Tout comme Joseph Smith qui a affirmé son témoignage malgré l'opposition, nous pouvons déclarer avec assurance, car j'avais eu une vision, je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le nier, ni ne l'osais. Mes chers frères et sœurs, laissez la jeune pousse du témoignage agir en vous jusqu'à ce qu'elle s'épanouisse en une connaissance sûre, glorieuse et éternelle. Pour ceux d'entre nous qui sont baptisés et confirmés membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mais qui se disent encore « je ne suis pas sûr de savoir », rappelez-vous cette promesse dans la prière de Sainte-Cène, afin qu'ils aient toujours son esprit avec eux. Grâce à cette promesse, chacun de nous peut poursuivre le chemin menant au témoignage et à une connaissance sûre. Maintenant, voici une grande vérité. Quelle que soit la manière dont un témoignage est donné, qu'il se distille comme le lever du soleil ou qu'il vienne sous la forme d'une vision glorieuse, il faut néanmoins faire le choix de recevoir ce précieux don. Dire « je choisis de croire » facilite la réception d'un témoignage de Dieu. Si nous constatons que notre témoignage s'affaiblit, souvenons-nous que ce sont nos choix qui en diminuent sa puissance. Mais le témoignage n'a pas disparu. Nous devons simplement choisir de se le réapproprier. Choisir de croire est une manière sage et puissante d'exercer son libre arbitre. Je ne vois pas de manière meilleure d'exercer mon libre arbitre que dans la défense de mon témoignage. Le président Nelson a enseigné « Je vous supplie de prendre la responsabilité de votre témoignage. Travaillez-y, assumez-le, prenez-en soin, nourrissez-le afin qu'il grandisse, alimentez-le de vérité. Pour moi, les mots « prendre la responsabilité »,« travailler », »,« prendre soin », »,« assumer », »,« nourrir » et « alimenter » évoquent un agent chargé de l'intendance de quelque chose de précieux et d'important. Dans les débuts de l'Église, Parley Piprat fut en désaccord avec Joseph Smith, le prophète, et choisit de le critiquer ainsi que l'Église. Un jour que John Taylor, à qui Parley avait enseigné l'Évangile, était en ville, Parley le prit à part et lui conseilla de ne pas suivre Joseph. John Taylor répondit à Parley, « Avant de quitter le Canada, tu as témoigné puissamment que Joseph Smith était un prophète de Dieu et tu as dit que tu le savais par révélation et par le don du Saint-Esprit. J'ai maintenant le même témoignage que celui dont tu te réjouissais alors. Si l'œuvre était vraie il y a 6 mois, elle est vraie aujourd'hui. Si Joseph Smith était alors un prophète, il en est un maintenant. » Je témoigne que Joseph Smith était un prophète de Dieu et que le manteau de prophète qu'il a reçu perdure aujourd'hui. Jésus-Christ dirige cette œuvre. Je vous invite à réfléchir à votre chemin vers un témoignage sûr de Jésus-Christ et de son évangile. Prenez la responsabilité de votre témoignage. Utilisez votre libre arbitre avec sagesse et reconnaissez le donateur et toutes ses qualités glorieuses. Je témoigne que le pouvoir est en vous. Personne ne peut choisir à votre place. Personne ne peut vous enlever ce don. Vous pouvez choisir de croire. Je vous promets que si vous le faites, votre témoignage sera une source d'eau vive jaillissant jusque dans la vie éternelle. Il sera une encre et une source de motivation. Il vous soutiendra dans les moments difficiles. Il vous permettra d'acquérir des dons spirituels. Il vous aidera dans votre ministère personnel et votre service. Il sera une arme contre Satan et vos adversaires. Votre témoignage sera une source de joie lorsque vous le verrez se refléter chez vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants et chez ceux que vous aimez et servez. Il sera puissant lorsque vous le rendrez et utiliserez pour témoigner. Si vous avez un témoignage, vous savez que vous l'avez. Je sais que j'en ai un. Nous avons besoin de plus de témoignages sûrs de Jésus-Christ et de son évangile. Développez-le, recherchez-le, c'est urgent. Nous sommes dans la dernière dispensation, celle de la plénitude des temps. Jésus-Christ a déclaré cette vérité, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Frères et sœurs, un témoignage de Jésus-Christ n'a jamais été censé être un don temporaire. Rien en lui n'est temporaire, que ce soit le donateur, le don lui-même, le libérateur du don ou le sujet du don. Puisse votre témoignage être décrit de la manière suivante. Le ciel et la terre passeront, mais votre témoignage de l'évangile de Jésus-Christ ne passera pas. Le moment est venu de s'approprier ce don précieux. Au nom de Jésus-Christ, amen.
As directed by Brother Saunders,
au signal de Frère Saunders, l'Assemblée se joindra au chœur pour chanter « Il vit mon Rédempteur », le numéro 72 dans le recueil de cantiques français. Nous écouterons ensuite Gerrit Gang du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Michael Sisla, des 70.
This is the Saturday afternoon session of the 195th semi-annual general conference.
C'est la session du samedi après-midi de la 195e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Depuis 50 ans, j'étudie la culture, y compris la culture de l'Évangile. J'ai commencé par les biscuits chinois, les gâteaux de la fortune. Dans le quartier chinois de San Francisco, les dîners de la famille Gong se terminaient par un biscuit chinois et une citation pleine de sagesse, telle que « un voyage de milieu commence toujours par un premier pas ». Une fois jeune adulte, j'ai commencé à confectionner des biscuits chinois. Munis de gants blancs en coton, je pliais et façonnais ces biscuits ronds, tout juste sortis du four. À ma grande surprise, j'ai appris qu'à l'origine, les biscuits chinois ne faisaient pas partie de la culture chinoise. Pour différencier des cultures chinoises, américaines et européennes en matière de biscuits chinois, j'ai recherché ces derniers sur plusieurs continents, à l'instar de ce qui se fait pour localiser un incendie de forêt. Les restaurants chinois de San Francisco, Los Angeles et New York servent des biscuits chinois, mais ce ne sont pas ceux que l'on trouve à Pékin, Londres ou Sydney. Seuls les Américains fêtent la journée nationale du biscuit chinois. Seules les publicités chinoises proposent des biscuits chinois américains authentiques. Les biscuits chinois sont un exemple simple et amusant. Mais le même principe de comparaison des pratiques culturelles dans différents contextes nous permet de reconnaître la culture de l'Évangile. Et maintenant, le Seigneur nous offre de nouvelles occasions d'apprendre la culture de l'Évangile à mesure que les prophéties liées aux allégories du Livre de Mormon et aux paraboles du Nouveau Testament s'accomplissent. Partout, les gens se déplacent. Les Nations Unies recensent 281 millions de migrants internationaux. Ce nombre représente 128 millions de personnes de plus qu'en 1990, et trois fois plus que les estimations de 1970. Un nombre record de convertis rejoignent l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours partout dans le monde. Chaque jour du sabbat, des membres des Amis de l'Église originaires de 195 pays et territoires se réunissent dans 31 916 assemblées de l'Église et parlent 125 langues différentes. Récemment, en Albanie, en Macédoine du Nord, au Kosovo, en Allemagne et en Suisse, j'ai vu de nouveaux membres réaliser l'allégorie de l'olivier du Livre de Mormon. Dans Jacob 5, le Seigneur de la vigne et ses serviteurs fortifient les racines et les branches de l'olivier en rassemblant et en greffant ensemble celles provenant de divers endroits. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se rassemblent en Jésus-Christ. Le Seigneur nous offre un moyen naturel remarquable d'étendre la plénitude de son évangile rétabli. Pour nous préparer au royaume des cieux, Jésus raconte les paraboles du grand dîner et du festin de noces. Dans ces paraboles, les invités présentent des excuses pour ne pas venir. Le maître demande alors à ses serviteurs d'aller promptement dans les places et dans les rues de la ville et d'amener les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Spirituellement, cela nous représente tous. Les Écritures déclarent « Toutes les nations seront invitées à un souper de la maison du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur pour que son royaume aille de l'avant sur la terre, pour que les habitants de la terre le reçoivent et soient préparés pour les jours à venir. » De nos jours, les personnes invitées au souper du Seigneur viennent de tous les horizons et de toutes les cultures. Nous faisons en sorte que nos assemblées reflètent nos collectivités, qu'elles soient régionales ou internationales, jeunes ou âgées, riches ou pauvres. En tant que chef des 12 apôtres, Pierre a vu le ciel s'ouvrir et a eu la vision d'une grande nappe attachée par les quatre coins se trouvait toute créature. Pierre a enseigné « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » En toute nation, celui qui craint le Seigneur et qui pratique la justice lui est agréable. À travers la parabole du bon samaritain, Jésus nous invite à nous rapprocher les uns des autres et de lui, dans son auberge, à savoir son Église. Il nous invite à être des voisins. Le bon samaritain promet de revenir et de récompenser ceux qui prennent soin des personnes hébergées dans son auberge. Vivre l'évangile de Jésus-Christ, c'est aussi faire de la place dans son église rétablie. Faire de la place dans l'hôtellerie, ou l'auberge dans notre cas, signifie que personne n'est assis seul. Lorsque vous venez à l'église et que vous voyez quelqu'un assis seul, je vous invite à le saluer et à vous asseoir à ses côtés. Il se peut que cela ne fasse pas partie de vos coutumes. Cette personne peut avoir une apparence, une façon de parler ou un comportement différent des vôtres. Mais comme le dirait un biscuit chinois, un voyage d'amitié et d'amour au sein de l'Évangile commence toujours par un premier bonjour et par le fait que personne n'est assis seul. Personne n'est assis seul signifie également que personne n'est assis seul émotionnellement ou spirituellement. Je suis allé avec un père au cœur brisé rendre visite à son fils. Des années plus tôt, le fils était ravi à l'idée de devenir diacre. À cette occasion, sa famille lui avait acheté sa première paire de chaussures neuves. Mais à l'église, les diacres se sont moqués de lui. Ses chaussures étaient neuves, mais pas à la mode. Gêné et blessé, le jeune diacre a déclaré qu'il n'irait plus jamais à l'église. J'ai toujours le cœur brisé pour lui et sa famille. Sur les routes poussiéreuses menant à Jéricho, chacun d'entre nous a été ridiculisé, humilié et blessé, peut-être méprisé et ou maltraité. Et à des degrés différents d'intention, chacun d'entre nous a également ignoré, n'a pas vu ou entendu, voire délibérément blessé quelqu'un d'autre. C'est justement parce que nous avons été blessés et que nous avons blessé que Jésus-Christ nous amène à son auberge. Dans son Église, et grâce à ses ordonnances et ses alliances, nous nous rapprochons les uns des autres et de Jésus-Christ. Nous aimons et sommes aimés. Nous servons et sommes servis. Nous pardonnons et sommes pardonnés. Souvenez-vous que si grands soient nos maux, Jésus peut les guérir. Les fardeaux terrestres s'allègent. La joie de notre Sauveur est réelle. Dans 1 Néphée 19, nous lisons « Oui, il foule le pied jusqu'au Dieu d'Israël lui-même. Il le méprise. C'est pourquoi il le flagelle et il le souffre. Et il le frappe et il le souffre. Oui, il crache sur lui et il le souffre. » Mon ami le professeur Terry Warner dit que le Christ n'a pas été jugé, flagellé, frappé et craché dessus de manière occasionnelle, uniquement pendant sa vie dans la condition mortelle. La manière dont nous nous traitons les uns les autres, en particulier les personnes qui ont faim, qui ont soif ou qui sont exclues, correspond à la manière dont nous le traitons, lui. Dans son Église rétablie, nous sommes tous meilleurs lorsque personne n'est assis seul. Ne nous contentons pas de faire des concessions ou de tolérer. Au contraire, accueillons, reconnaissons, aidons et aimons sincèrement chacun. Que chaque ami, chaque sœur et chaque frère ne soit pas un étranger ou une étrangère, mais de nouveau chez lui ou chez elle. Aujourd'hui, beaucoup se sentent seuls et isolés. Les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle peuvent nous donner soif de proximité et de contact humain. Nous voulons entendre la voix de chacun, nous voulons éprouver un sentiment d'appartenance authentique et de la gentillesse. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles nous avons l'impression de ne pas être à notre place à l'Église et pour parler au sens figuré, d'être assis seul. Nous nous préoccupons peut-être de notre accent, de nos vêtements ou de notre situation familiale. Il se peut que nous nous sentions inadéquats, que nous sentions la cigarette, que nous aspirions à la pureté morale, que nous ayons rompu avec quelqu'un et que nous nous sentions blessés et gênés, ou que nous soyons préoccupés par telle ou telle règle de l'Église. Nous sommes peut-être célibataires, divorcés ou veufs. Nos enfants sont bruyants, nous n'avons pas d'enfants. Nous n'avons pas fait de mission, nous nous sommes rentrés prématurément. La liste est longue. Mosia 18:21 nous invite à nous enlacer les cœurs dans l'amour. Je nous invite à nous inquiéter moins, à juger moins et à être moins exigeants envers autrui. Et lorsque cela est nécessaire, être moins dur envers nous-mêmes. Nous ne bâtirons pas Sion en un jour, mais chaque bonjour, chaque geste chaleureux nous rapproche de Sion. Faisons davantage confiance au Seigneur et choisissons joyeusement d'obéir à tous ses commandements. D'un point de vue doctrinal, dans le foyer de la foi et la communauté des saints, personne n'est assis seul grâce à l'alliance qui nous lie à Jésus-Christ. Joseph Smith, le prophète, a enseigné « C'est à nous qu'il appartient de voir la gloire des derniers jours, d'y participer et de la faire avancer. Cette gloire est la dispensation de la plénitude des temps où les saints de Dieu seront rassemblés de toutes les nations, familles et peuples. Dieu ne fait rien qui ne soit pour le profit du monde, afin d'attirer tous les hommes et femmes à lui. Il les invite tous à venir à lui et à prendre part à sa bonté. Et tous sont pareils pour Dieu. La conversion à Jésus-Christ exige que nous nous dépouillions de l'homme naturel et de la culture du monde. Comme l'a enseigné Dallin Oaks, nous devons renoncer à toute tradition et pratique culturelle contraire au commandement de Dieu et devenir des saints des derniers jours. Il a dit, « Tous les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours partagent une culture unique de l'Évangile, des valeurs, des espérances et des pratiques communes. La culture de l'Évangile comprend la chasteté, l'assistance hebdomadaire à l'Église et le fait de ne pas consommer d'alcool, de tabac, de thé ni de café. Elle comprend l'honnêteté et l'intégrité. Elle comprend la notion que nous progressons dans l'Église sans monter ni descendre dans la hiérarchie. J'apprends énormément des membres fidèles et des amis de tous les pays et de toutes les cultures. L'étude des Écritures dans plusieurs langues et selon différentes perspectives culturelles approfondit ma compréhension de l'Évangile. Les différentes manifestations des vertus chrétiennes approfondissent mon amour et ma compréhension de mon Sauveur. Nous sommes tous bénis lorsque nous établissons notre identité culturelle, comme l'a enseigné le président Nelson, comme étant celle d'un enfant de Dieu, d'un enfant de l'Alliance et d'un disciple de Jésus-Christ. La paix de Jésus-Christ nous est destinée personnellement. Récemment, un jeune homme m'a demandé avec sincérité, « Frère Gong, puis-je encore aller aux cieux ?» Il se demandait s'il pourrait un jour être pardonné. Je lui ai demandé son nom, je l'ai écouté attentivement, je l'ai invité à parler à son évêque. Je l'ai serré dans mes bras. Il est reparti avec de l'espoir en Jésus-Christ. J'ai mentionné ce jeune homme dans un autre contexte. Plus tard, j'ai reçu une lettre anonyme qui commençait ainsi. « Frère Gong, ma femme et moi avons élevé 9 enfants et avons fait 2 missions. Mais j'ai toujours pensé que je n'irais pas au royaume céleste parce que les péchés que j'ai commis dans ma jeunesse étaient très graves. » La lettre se poursuivait ainsi. « Frère Gong, lorsque vous avez raconté comment ce jeune homme avait retrouvé l'espoir d'être pardonné, j'ai été rempli de joie et j'ai compris que moi aussi je pouvais être pardonné. » La lettre se terminait ainsi. J'ai même commencé maintenant à m'apprécier. Notre sentiment d'appartenance grâce aux alliances s'approfondit à mesure que nous nous approchons du Seigneur et les uns des autres dans son auberge. Le Seigneur nous bénit tous lorsque personne n'est assis seul. Et qui sait, la personne assise à côté de nous deviendra peut-être notre meilleur ami, comme le dirait un biscuit chinois. Je prie humblement que nous trouvions et fassions de la place pour lui et les uns pour les autres au souper de l'agneau, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Il y a 33 ans, j'étais appelé à servir comme missionnaire dans la mission d'Ogden en Utah. Naturellement, étant originaire d'Europe, certaines traditions d'Utah, telles que la gelée verte aux carottes ou les pommes de terre funéraires, me paraissaient un peu étranges. En revanche, j'ai été profondément impressionné par l'exemple de nombreux saints dévoués menant une vie de disciples, par le nombre vertigineux de personnes assistant aux réunions de l'Église et par l'ampleur des programmes de l'Église pleinement opérationnels. À la fin de ma mission, je voulais m'assurer que ma future famille ait accès à cette joie que j'avais ressentie et à la force et à la maturité spirituelle que j'avais observée. J'étais déterminé à revenir rapidement, vivre ma vie à l'ombre des collines éternelles. Cependant, le Seigneur avait d'autres desseins pour moi. Le premier dimanche après mon retour de mission, mon sage évêque m'a appelé à servir en tant que président des jeunes gens de notre paroisse. En servant ce merveilleux groupe de jeunes gens, j'ai vite compris que la joie que l'on ressent lorsqu'on est disciple du Christ a très peu à voir avec l'affluence aux réunions de l'Église ou l'envergure des programmes. Ainsi, lorsque j'ai épousé ma merveilleuse femme Margaret, nous avons joyeusement décidé de rester en Europe et d'élever notre famille dans notre pays d'origine, l'Allemagne. Ensemble, nous avons été témoins de la véracité des paroles enseignées par le président Nelson il y a plusieurs années. La joie que nous ressentons dépend peu de notre situation, mais entièrement de l'orientation de notre vie. Lorsque notre vie est centrée sur le Christ et sur le message de son évangile, nous pouvons recevoir la plénitude des bénédictions du disciple, qu'importe l'endroit où nous vivons. Cependant, dans un monde de plus en plus profane, complexe et déroutant, avec des exigences et des messages différents et souvent contradictoires, comment pouvons-nous éviter l'aveuglement spirituel et l'endurcissement de notre cœur tout en restant concentrés sur les choses claires et précieuses de l'évangile de Jésus-Christ ? Pendant une période de confusion, l'apôtre Paul a donné un conseil précieux aux saints de Corinthe en leur rappelant de se concentrer sur la simplicité à l'égard de Christ. La doctrine du Christ et la loi de l'Évangile sont si simples que même les petits enfants peuvent les comprendre. Nous pouvons accéder au pouvoir rédempteur de Jésus-Christ et recevoir toutes les bénédictions spirituelles que notre Père Céleste a préparées pour nous en exerçant la foi en Jésus-Christ, en nous repentant, en étant baptisés, en étant sanctifiés par le don du Saint-Esprit et en persévérant jusqu'à la fin. Russell Nelson a magnifiquement décrit ce voyage comme étant le chemin des alliances et le processus pour devenir un disciple dévoué de Jésus-Christ. Si ce message est si simple, pourquoi semble-t-il souvent si difficile de vivre la loi du Christ et de suivre son exemple ? Il se peut que nous interprétions à tort la simplicité comme quelque chose de facile à atteindre sans effort ni diligence. Suivre le Christ demande des efforts constants et un changement continu. Nous devons nous dépouiller de l'homme naturel et devenir semblable à un enfant. Cela inclut le fait de se confier en l'Éternel et de se libérer de la complexité comme le ferait un petit enfant. Mettre en pratique la doctrine du Christ de manière simplifiée et ciblée nous aidera à trouver de la joie dans notre vie quotidienne, à être guidés dans nos appels, à répondre à certaines des questions les plus complexes de la vie et à trouver la force de faire face à nos plus grands défis. Mais comment pouvons-nous intégrer concrètement cette simplicité dans notre vie de disciple du Christ tout au long de notre existence ? Le président Nelson nous a rappelé de nous concentrer sur la vérité pure, la doctrine pure et la révélation pure, tandis que nous nous efforçons de suivre le Sauveur. Le fait de se demander régulièrement « qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ voudrait que je fasse ?» ouvre la voie à des directives profondes. En suivant son exemple, nous trouvons un chemin sûr à travers l'incertitude et une main aimante et directrice à tenir jour après jour. Il est le prince de la paix et le bon berger. Il est notre consolateur et notre libérateur. Il est notre rocher et notre refuge. Il est un ami, votre ami et le mien. Il nous invite tous à aimer Dieu, à respecter ses commandements et à aimer notre prochain. Lorsque nous choisissons de suivre son exemple, d'aller de l'avant avec foi en lui, d'accepter pleinement le pouvoir de son expiation et de nous souvenir de nos alliances, l'amour remplit notre cœur, l'espérance et la guérison élèvent notre esprit et l'amertume et le chagrin font place à la gratitude et à la patience d'attendre les bénédictions promises. Parfois, nous devons nous éloigner d'une situation malsaine ou nous faire aider par un professionnel, mais dans tous les cas, la mise en pratique de principes simples de l'Évangile nous permet de surmonter les difficultés de la vie à la manière du Seigneur. Nous sous-estimons parfois la force que nous recevons d'actes simples comme prier, jeûner, étudier les Écritures, nous repentir quotidiennement, prendre la Sainte Cène chaque semaine et aller régulièrement au Temple. Mais quand nous acceptons que nous n'avons pas à faire quelque chose de difficile et que nous nous concentrons sur la mise en pratique de la doctrine pure et simple, nous commençons à voir que l'Évangile est merveilleusement bénéfique pour nous, même dans les situations les plus difficiles. Nous trouvons de la force et de l'assurance devant Dieu, même lorsque nous ressentons de la douleur. M. Russell Ballard a souvent rappelé « C'est dans cette simplicité que nous trouverons la paix, la joie et le bonheur. » Appliquer la simplicité qui est en Christ nous pousse à donner la priorité aux personnes plutôt qu'aux processus et aux relations éternelles plutôt qu'aux comportements à court terme. Au lieu de nous laisser absorber par l'aspect logistique de notre service, nous nous concentrons sur les choses qui importent le plus dans l'œuvre de Dieu pour le salut et l'exaltation. Nous nous libérons pour donner la priorité à ce sur quoi nous pouvons agir, au lieu d'être accablés par ce qui est hors de notre contrôle. Le Seigneur a dit, c'est pourquoi ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les fondements d'une grande œuvre, et c'est de petites choses que sort ce qui est grand. Quel encouragement puissant à agir avec simplicité et humilité, quelle que soit notre situation. Ma grand-mère, Marta Tsesla, était un merveilleux exemple de personne qui fait des choses petites et simples pour que de grandes choses soient réalisées. Nous l'appelions affectueusement Oma Tsesla. Oma a accepté l'évangile le 30 mai 1926 dans le petit village de Selbungen en Prusse orientale avec mon arrière-grand-mère. Elle aimait le Seigneur et son évangile et elle était déterminée à respecter les alliances qu'elle avait contractées. En 1930, elle a épousé mon grand-père qui n'était pas membre de l'église. À ce moment-là, il est devenu impossible pour Oma d'assister aux réunions de l'église car la ferme de mon grand-père se trouvait à plusieurs heures de route de l'assemblée la plus proche. Mais elle s'est concentrée sur ce qu'elle pouvait faire. Oma a continué à prier, à lire les Écritures et à chanter les cantiques de Sion. Certaines personnes ont peut-être pensé qu'elle n'était plus pratiquante, mais c'était loin d'être le cas. Lorsque ma tante et mon père sont nés, sans prêtrise à la maison, sans réunion d'église, ni accès aux ordonnances à proximité, elle a fait de nouveau ce qu'elle pouvait et s'est attachée à enseigner à ses enfants, à prier et à marcher en droiture devant le Seigneur. Elle leur lisait les Écritures, chantait avec eux les cantiques de Sion et, bien sûr, priait avec eux chaque jour. Une expérience de l'église 100% appliquée au foyer. En 1945, mon grand-père servait dans l'armée loin de chez lui. Lorsque l'ennemi s'est approché de leur ferme, Oma a pris ses deux enfants et a quitté leur ferme bien-aimée pour chercher refuge dans un endroit plus sûr. Après un voyage difficile et dangereux, ils ont finalement trouvé refuge dans le nord de l'Allemagne en mai 1945. Ils n'avaient plus rien, à l'exception des vêtements qu'ils portaient. Mais Oma a continué de faire ce qu'elle était capable de faire. Elle priait chaque jour avec ses enfants et, chaque jour, elle chantait avec eux les cantiques de Sion qu'elle connaissait par cœur. La vie était extrêmement difficile et, pendant de nombreuses années, leur principal souci était de pouvoir se nourrir. Mais en 1955, mon père, alors âgé de 17 ans, fréquentait une école professionnelle dans la ville de Rendsburg. En passant devant un bâtiment, il a vu une petite pancarte à l'extérieur qui disait « Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage » « L'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ». Il s'est dit « C'est intéressant, c'est l'église de maman ». Alors, en rentrant chez lui, il a dit à Oma qu'il avait trouvé son église. Vous pouvez imaginer ce qu'elle a dû ressentir après presque 25 ans sans contact avec l'église. Elle était déterminée à y assister le dimanche suivant et a convaincu mon père de l'accompagner. Rendsburg se trouvait à plus de 30 km du petit village où il vivait, mais Oma n'allait pas laisser cela l'empêcher d'aller à l'église. Le dimanche suivant, elle est montée sur son vélo avec mon père et ils sont allés à l'église. Lorsque la réunion de Sainte-Seine a commencé, mon père s'est assis au dernier rang, espérant que cela se termine rapidement. C'était l'église d'Oma, pas la sienne. Ce qu'il voyait n'était pas très encourageant. Une assemblée constituée de quelques femmes âgées et de deux jeunes missionnaires qui dirigeaient toute la réunion. Mais ils ont commencé à chanter. Ils ont chanté les cantiques de Sion que mon père avait entendus depuis tout petit. « Venez, venez, sans craindre le devoir. » « Oh mon père, oh grand prophète !» Entendre ce petit groupe chanter les chants qu'il connaissait depuis son enfance a touché son cœur. Et il a su immédiatement et sans l'ombre d'un doute que l'église était vraie. La première réunion de Sainte-Seine à laquelle ma grand-mère a assisté après 25 ans est aussi celle où mon père a reçu une confirmation personnelle de la véracité de l'évangile rétabli de Jésus-Christ. Il s'est fait baptiser 3 ans plus tard, le 25 septembre 1911. 55, 3 semaines plus tard, avec mon grand-père et ma tante. Plus de 70 ans se sont écoulés depuis cette petite réunion de Sainte-Seine à Rendsburg. Je pense souvent à Oma, à ce qu'elle devait ressentir pendant ses nuits solitaires, faisant les petites choses simples qu'elle pouvait faire, comme prier, lire et chanter. Alors que je me tiens ici aujourd'hui à la conférence générale et que je parle de ma grand-mère, mon cœur est rempli d'humilité et de gratitude pour sa détermination à respecter ses alliances et à faire confiance au Seigneur malgré ses épreuves. Je suis touché non seulement par son exemple, mais aussi par celui de merveilleux saints dans le monde qui, dans leur situation difficile, se concentrent sur la simplicité en Christ, voyant peut-être peu de changements maintenant, mais ayant confiance que de grandes choses arriveront un jour futur. j'ai appris par expérience personnelle que les choses petites et simples de l'Évangile et le fait de nous concentrer fidèlement sur le Christ nous conduisent à la vraie joie, permettent à de puissants miracles de se réaliser et nous donnent la confiance que toutes les bénédictions promises s'accompliront. C'est aussi vrai pour vous que pour moi. Comme l'a dit Geoffrey Hollande, certaines bénédictions se manifestent rapidement, d'autres tardivement, certaines uniquement aux cieux, mais pour ceux qui embrassent l'évangile de Jésus-Christ, elles se manifestent. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes reconnaissants pour toutes les personnes qui se sont adressées à nous cet après-midi, et pour la belle musique qui a été interprétée par le chœur de l'Institut, pour les directeurs et les organistes. Nous vous rappelons la session générale du samedi soir qui sera diffusée depuis le centre de conférence ce soir à 18h, heure avancée des Rocheuses. Le chœur va maintenant interpréter « Voyez les mains de Jésus-Christ ». Le dernier orateur de cette session sera Quentin Cook du Collège des Douze Apôtres. Après le discours de Frère Cook, le chœur interprétera « Je tiens ferme ». Ensuite, Emily Freeman, présidente générale des jeunes filles, fera la prière de clôture.
Thank you for that precious rendition.
Merci pour cette magnifique interprétation. Charles Dickens a commencé son roman bien connu, Un conte de Deville, par l'affirmation suivante. C'était la meilleure des époques et c'était la pire des époques. Dans un sens, cela décrit bien notre époque. Nous vivons à une époque troublée où toute la terre est en tumulte. L'avertissement du président Nelson aux disciples de Jésus-Christ d'être des artisans de paix a été merveilleusement souligné ce matin par Gary Stevenson. C'est une chose essentielle pour encourager l'unité, la paix et la guérison pour la pire des époques. Je dois également souligner que nous vivons aussi à la meilleure des époques. Comme le Seigneur l'a déclaré dans la préface des Doctrines et Alliances, la section 1, la plénitude de l'Évangile sera proclamée jusqu'aux extrémités du monde. Le Seigneur hâte véritablement son œuvre à notre époque. Nous devrions être profondément reconnaissants de cette accélération qui a commencé et continue en dépit de ces temps difficiles. Nous vivons à une époque où les disciples du Seigneur ont la bénédiction d'entendre sa voix et de répondre avec un cœur et un esprit ouverts. Les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui sont engagés envers le Sauveur et ses commandements, trouvent un but et une paix personnelle profonde. À différents moments de son histoire, l'Église a connu une augmentation importante du nombre de personnes qui sont entrées sur le chemin des alliances. L'une de ces périodes a eu lieu entre 1837 et 1850. Certains des premiers apôtres de l'Église rétablie du Seigneur firent une mission au Royaume-Uni. Grâce à ces missions, des milliers de personnes se joignirent à l'Église et en 1850, l'Église comptait plus de membres au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. À cette époque, le Seigneur commanda à ses saints de se rassembler en Utah. Ils émigrèrent en grand nombre. Certains d'entre eux étaient soutenus par des prêts octroyé par le Fonds perpétuel des migrations. J'aime beaucoup le récit de l'arrivée dans la vallée du lac Salé d'un grand nombre de convertis venus d'Angleterre et du pays de Galles en 1852. Ce groupe fut accueilli à l'entrée d'Emigration Canyon par la première présidence, accompagnée de la fanfare du capitaine Pitt. Le Deseret News les décrivit comme un groupe de pèlerins comprenant des sœurs et des enfants, marchant, brûlés par le soleil et battus par les intempéries, mais pas désespérés. Ils avaient le cœur léger et plein d'entrain, ce qui se manifestait clairement sur leurs visages heureux et joyeux. Lorsqu'ils passèrent devant le quartier du Temple, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants de divers endroits de la ville s'étaient rassemblés pour participer à leur accueil glorieux et joyeux. Brigham Young leur adressa ces paroles. « Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, vous bénisse. Nous avons continuellement prié pour vous. Des milliers de prières ont été offertes pour vous, jour après jour, à celui qui nous a ordonné de rassembler Israël, de sauver les enfants des hommes par la prédication de l'Évangile et de les préparer à la venue du Messie. » Dans l'esprit de ces réjouissances, je veux à nouveau exprimer cette assurance à tous les nouveaux convertis et aux personnes qui reviennent à l'Église du Seigneur. Nous vous aimons. Nous avons besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous. Nous ne vous accueillons peut-être pas en fanfare, mais nous prions pour que les bénédictions des cieux accompagnent vos efforts pour progresser sur le chemin des alliances qui mène à Dieu le Père et à Jésus-Christ dans le royaume céleste. Il y a des preuves évidentes que la foi en Jésus-Christ augmente à notre époque. L'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, connaît une augmentation remarquable des conversions. Au cours des 36 derniers mois, près de 900 000 convertis se sont joints à l'Église. Ces convertis représentent environ 5% de la population totale de l'Église. Vous qui êtes nouveaux membres, nous vous accueillons à bras ouverts et vous sommes profondément reconnaissants du chemin que vous avez choisi. Ces 900 000 convertis des 36 derniers mois dépassent le nombre total de membres de l'Église à son 110e anniversaire en 1940, qui était d'un peu plus de 860 000 membres. C'est l'année où Jeffrey Holland, Dieter Uchtdorf et moi-même sommes nés. Ces merveilleux nouveaux convertis viennent des quatre coins du monde. Au cours du premier semestre 2025, les conversions ont augmenté de plus de 20% par rapport à l'année précédente en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie et en Amérique latine. Aux États-Unis, nous avons constaté une augmentation de 17%. L'œuvre du Seigneur continue d'avancer avec puissance. Ces chiffres croissants sont un témoignage clair que l'Évangile touche les cœurs et change des vies partout. À notre époque, ces précieux convertis ne se rassemblent plus en un lieu central. Grâce à la foi et à la consécration de ses membres, l'Église dispose de ressources pour soutenir les assemblées par la construction d'églises et de temples dans le monde entier. Grâce aux clés de la prêtrise requises et aux moyens fournis, les ordonnances salvatrices sont maintenant disponibles dans la plupart des régions du monde. En tant que membres, quel que soit l'endroit où nous vivons, nous devons accueillir des centaines de milliers de nouveaux membres, comme nous l'avons fait dans les premiers temps de l'Église pour les saints anglais et gallois dont j'ai parlé. J'ai beaucoup aimé le discours de Gary Gong lors de cette session, où il nous a enseigné que personne ne devait rester seul, que ce soit émotionnellement ou spirituellement. Notre devoir sacré est d'accepter et d'accueillir les nouveaux membres et ceux qui reviennent à l'Église. Tandis que le Seigneur hâte son œuvre, nous devons aimer, nourrir et servir les personnes qui acceptent son Évangile. Nous pouvons contribuer à l'édification d'un peuple de Sion là où nous sommes, d'un seul cœur et d'un seul esprit, et demeurons dans la justice. Pour être un avec le Seigneur, nous devons être un devant le Seigneur. Tous les membres, quelle que soit leur date de baptême, partagent la responsabilité d'accueillir les autres. Mon conseil aux membres de l'Église et que nous prenions dans nos bras ces précieux élus qui ont accepté l'évangile de Jésus-Christ. Gordon Hinckley, ancien président de l'Église, nous a enseigné que les nouveaux convertis ont besoin d'un ami, d'une responsabilité et d'être nourris de la bonne parole de Dieu. Nous pouvons faire partie des amis qui assurent à ces nouveaux convertis qu'ils font partie du groupe et qu'ils ne sont pas seulement des invités. Nous pouvons les aider à comprendre qu'ils sont des disciples de Jésus-Christ qui peuvent servir les autres et accepter des appels à servir. Les jeunes convertis devraient envisager de faire une mission à plein temps. Tous doivent être déterminés à s'efforcer de vivre de manière chrétienne. Beaucoup se joignent à l'Église au prix de grands sacrifices personnels et ont désespérément besoin de l'amour et du soutien des autres membres. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux ou qui reviennent à l'Église, il se peut que vous rencontriez des difficultés. Soyez patient avec vous-même. Les missionnaires vous ont enseigné la doctrine essentielle et vous ont expliqué les alliances et les ordonnances du royaume qui sont énoncées dans les Écritures et dans « Prêcher mon évangile ». Il est essentiel de recevoir les ordonnances et les alliances et de respecter les commandements. Concentrez-vous sur les alliances nécessaires à l'exaltation. L'évangile rend l'exaltation possible, ce qui nécessite de contracter des alliances sacrées avec Dieu et de les respecter. À l'exception du baptême, de la confirmation et pour les hommes de l'ordination à la prêtrise de Melchisédek, les alliances que nous contractons sont accomplies dans le temple. Pour les personnes décédées, chacune de ces ordonnances salvatrices n'est accomplie que dans le temple. Par conséquent, votre préparation pour le temple devrait être votre objectif immédiat. Vous aurez parfois l'impression de ne pas être à la hauteur de ce que vous savez. La connaissance de l'Évangile est une grande bénédiction que l'on obtient progressivement au fil du temps, mais ce n'est pas une ordonnance salvatrice. L'Évangile n'est pas un contrôle de la connaissance. Cependant, le président Nelson a fait cette promesse. Si vous étudiez tous les jours le Livre de Mormon en vous aidant de la prière, vous prendrez tous les jours de meilleures décisions. Si vous méditez sur ce que vous étudiez, les écluses des cieux s'ouvriront et vous recevrez des réponses à vos questions et des indications pour guider votre vie. De plus, le programme d'études de l'Église pour les réunions du dimanche couvre chaque année et à tour de rôle l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Livre de Mormon et les doctrines et alliances. Au fil du temps, à mesure que votre connaissance de l'Évangile grandira, vous acquérerez de plus en plus d'assurance. L'étude régulière des Écritures sera une bénédiction qui enrichira votre vie en approfondissant votre conversion à l'Évangile de Jésus-Christ. L'apprentissage de la doctrine pure de Jésus-Christ est une quête permanente, tant pour la comprendre que pour mener une vie chrétienne. Les alliances essentielles fournissent un cadre que nous appelons le chemin des alliances. Le président Nelson a enseigné ces principes avec puissance. Tous les membres, en particulier les nouveaux membres et ceux qui reviennent à l'Église, seront bénis s'ils étudient et suivent ces messages prophétiques sur les alliances et le chemin des alliances. Si vous vous fixez le but de recevoir dignement chaque alliance nécessaire à l'exaltation, vous serez sur le chemin qui mène au royaume céleste. Le temple et ses ordonnances doivent être notre priorité. La plupart des alliances sont accessibles à chacun. L'une d'elles, le mariage éternel, implique d'unir vos efforts à ceux d'un conjoint. Notre but doit être de trouver ce conjoint éternel. Mais ne vous découragez pas si le mariage éternel n'est pas possible pour le moment. Les prophètes ont enseigné qu'aucune bénédiction ne sera refusée aux membres fidèles qui respectent les commandements. Un prophète du Livre de Mormon, le roi Benjamin, l'a dit d'une très belle manière, je cite, « Ceux qui gardent les commandements de Dieu sont bénis en tout, et s'ils sont fidèles jusqu'à la fin, ils peuvent demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. » Vous constaterez, si ce n'est pas déjà fait, que les membres ne sont pas parfaits. La doctrine révélée dit clairement que pendant notre séjour ici-bas, nous ferons des erreurs. Nous vivons dans un monde imparfait et déchu, et non dans un monde céleste. Cette vie est une période de mise à l'épreuve avec des occasions constantes de se repentir et de faire ses preuves. Aucun de nous ne se sent à la hauteur dans ses efforts pour devenir semblable à Jésus-Christ. Son expiation nous permet de nous repentir quotidiennement lorsque nous échouons. Comme l'a dit Néphi, un autre prophète du Livre de Mormon, nous devons marcher résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est pourquoi si vous marchez résolument, vous faisant un festin de la parole du Christ et persévérez jusqu'à la fin, voici ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. Lorsque nous réfléchissons aux difficultés de notre époque, nous devons nous rappeler que le Sauveur, pendant son ministère terrestre, a également vécu à une époque agitée et violente. Il ne se concentrait pas sur les difficultés politiques de l'époque. Il s'occupait du perfectionnement des saints. Il n'a jamais été facile de suivre le Sauveur, sa doctrine et ses enseignements dans un monde constamment en tumulte. Les choses n'étaient pas faciles pour le Sauveur dans le monde et l'époque instable où il a vécu. Et elles ne l'étaient pas davantage pour nos premiers dirigeants et membres, et elles ne le sont pas davantage pour nous. Heureusement, les prophètes d'aujourd'hui nous guident selon les besoins particuliers de notre époque. Président Dallin Oaks poursuivra cet héritage spirituel puissant. Je témoigne que la doctrine de l'Église de Jésus-Christ est éternelle et vraie. Je témoigne avec certitude que Jésus-Christ vit et que grâce à son expiation, nous pouvons être un avec lui. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Thank you. Heavenly Father,
Père Céleste, nous venons à toi aujourd'hui avec un cœur reconnaissant et plein de dévouement pour avoir pu faire partie de cette saison. Et nous sommes reconnaissants pour la saison à venir. Nous te demandons de bénir ceux qui vont nous diriger, qu'ils puissent comprendre l'étendue de notre soutien. Nous les aimons. Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ce que nous voyons partout dans le monde, l'œuvre qui avance. Et nous te demandons de bénir tes missionnaires avec un témoignage puissant pour qu'ils puissent accomplir l'œuvre. Et nous te demandons de nous aider à comprendre notre rôle dans l'avancement de l'Évangile, de cette œuvre. S'il te plaît, Père, aide-nous à faire mieux. Et nous demandons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the Saturday afternoon session.
Vous venez d'assister à la session du samedi après-midi de la 195e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session a été interprétée par un chœur conjoint des instituts d'Ogden et de South Jordan en Utah. Tout le monde est invité à regarder et à faire connaître les messages de cette conférence et des conférences précédentes disponibles sur le site churchofjesuschrist.org. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Elle peut être utilisée à des fins personnelles et non commerciales au foyer, en famille ou dans le cadre de l'Église. Copyright 2025 Intellectual Reserve Incorporation. Tout droit réservé.